Et nous avons le plaisir de retrouver autour de sa table absolument fantastique l'un des hommes les plus influents de... Je sais pas pourquoi j'ai voulu commencer comme ça. Bonjour monsieur Benoît Forget, comment vas-tu?
Bah ça va, ah, ça jusqu'ici va tout allait bien.
J'ai mis la barre trop haute, c'est ça?
Ouais, c'est vrai, les barres c'est fait pour être sautées, mais enfin bon quand même quoi.
Alors aujourd'hui on est là pour parler de toi personnellement et de tout ce qui tourne autour de tes nouvelles actualités et tu vas nous en parler très bien. Est-ce que tu peux, on peut parler un peu déjà de ton ancien, de ton parcours jusqu'à aujourd'hui?
Oula.
On sait que tu es un ancien chef de projet chez Libellude, si je dis pas de bêtises. Ensuite tu es parti chez Libellude, tu as commencé une aventure solo.
Oui.
Avec Purple Brain.
Oui.
Est-ce qu'on peut demander qu'est-ce qui a motivé ça? C'était juste une envie d'être son propre patron ou une envie de lancer son propre projet?
Pas du tout. C'est la vie.
C'est la vie, ok.
Non, c'est la vie. Quand je suis rentré chez Libellude en tant que chef de projet, l'idée c'était d'y rester.
D'accord. Tout
et
simplement.
Et en fait, au bout d'un an, pour des raisons familiales, j'ai dû déménager.
D'accord.
Et donc là, c'est posé la question de comment on continue. Et puis, on a parlé de télétravail, mais ça rentrait pas dans le truc. Donc, on a décidé d'arrêter. Et puis voilà. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, je comptais pas mettre à la poubelle tout le réseau que j'avais commencé à constituer bien avant Libellude, parce que j'étais aussi rédacteur pour Plateau Magazine, Sci-Fi Universe et Ravage.
D'accord, que du bon.
Tout ça. Et puis, je me suis dit, ouais, je vais pas mettre tout ça à la poubelle. Le réseau plus tout ce que j'avais appris chez Libellude de manière plus pragmatique, c'est-à-dire tout ce qui est production de jeux, enfin tout ça. Et donc, j'ai monté ma boîte, voilà.
D'accord.
Tout simplement. Donc, Purple Brain. Donc, c'était pas un désir de créer une entreprise en soi, c'était une façon de prolonger
l'expérience.
Ma vie professionnelle dans ce milieu-là, quoi.
D'accord.
Voilà.
Tout ce qui est Purple Brain, ta ligne directe éditoriale sur Purple Brain, elle s'est décidée comment? Par envie de faire du jeu spécifiquement enfant ou avoir parce que aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui Purple Brain c'est vraiment une boîte de jeux très spécifique avec des jeux très très orientés, on les reconnaît sur les étagères.
Oui.
C'est quoi qui a motivé en fait cette ligne éditoriale chez toi?
Plein de choses. La première chose, enfin non, c'est pas la première, il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je vais dire.
D'accord.
C'est que j'aime beaucoup la littérature jeunesse, j'aime beaucoup la BD, c'est pas Christophe?
Ouais.
J'aime plein de trucs comme ça, avec de belles illustrations, j'aime l'illustration, j'aime les contes et les fables, que je ne considère pas que pour les enfants. Et donc, chez Libellude, quand j'étais chef de projet chez Libellude, j'avais travaillé sur Le Petit Poucet et la forêt mystérieuse qu'on avait développée chez Libellude à cette époque-là. Et j'avais bien aimé cette façon de travailler, de raccorder tous les petits détails mécaniques à l'œuvre originelle.
D'accord.
En fait, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé et que j'adore faire, en fait, quoi. Et de fil en aiguille, après tout ça, cette accumulation de plein de choses, je me suis dit, tiens, j'ai bien envie de prolonger l'expérience et de faire des jeux sur les contes et les fables. Et est venue l'idée du packaging, donc on parle de contes et de fables, donc on parle de livres.
Mmh.
Et c'est ce que je dis souvent, c'est que les boîtes livres existaient avant que Purple Brain les fasse, dans d'autres domaines, je sais pas, les chocolats ou les trucs comme ça.
Même dans le domaine du jeu, il y avait coup du balai.
Du balai, ouais. Bon, la boîte était vraiment moins bien, mais bon.
Je confirme.
Petite dédicace à Philippe Mouret. Oui, il y avait ce genre. Et puis, on peut même remonter encore plus loin. Chez Gallimard, ils avaient sorti Talisman, Le Sorcier de la Montagne, etc. Boîte livre plastique avec l'œil noir et compagnie. Donc, ça remonte encore. C'est encore plus ancien, en fait. Donc là, l'idée, c'était de... Moi, je suis assez rigoureux. J'aime bien les... Je pense que je range mes BD comme personne. J'arrête la soirée.
Ça dépasse pas, ça arrive
voilà,
le poil au
donc,
bord.
J'aime bien, je suis assez comme ça. Donc la gamme, c'est moi. C'est un peu présomptueux de te dire ça, mais c'est une image de ce que je suis aussi. C'est-à-dire, j'aime bien les trucs rangés, ordonnés. J'aime bien que dans une même gamme, on ait à peu près les mêmes boîtes. Enfin, il y a une correspondance globale, enfin une cohérence, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est lié. Puis c'est devenu... la gamme Contes et Jeux, et ensuite la gamme classique, c'est avec le Tour du Monde en 80 jours, Oliver Twist, c'est une excroissance de la gamme Contes et Jeux. Ouais. Tout simplement, c'est une transformation sur un public différent.
Oui, on reste sur la même ligne éditoriale finalement.
Mais c'est exactement la même chose finalement. C'est exactement la même chose.
Et en fait, c'est amusant parce que on sait que tu es très impliqué dans la création de tes jeux. Donc oui. Finalement, on retrouve vraiment cette patte chez toi.
Ouais, je pense que le fil conducteur, c'est non seulement le format, mais il y a aussi l'esprit des jeux. Quoi.
D'accord.
Alors, moi, je le ressens comme. C'est un peu pompeux de dire ça, mais c'est donner une âme en fait à un jeu. Quoi. C'est-à-dire que quand moi je fais le jeu, c'est pas seulement un produit, c'est de donner, enfin mettre quelque chose. Je dis pas que j'y suis arrivé à chaque fois, mais de travailler avec l'auteur, ça permet de donner une direction qui est fidèle à cet esprit de gamme aussi, quoi. Donc chaque auteur peut être différent, chaque illustrateur peut être différent aussi, mais
il y a le fond, voilà, Purple Rain qui est là.
Mais c'est comme une série télévisée, quoi. C'est qu'il y a toujours, il y a des personnes qui sont en place. Il y a une base, et après il y a des gens qui viennent se rajouter, ou d'autres, même dans la BD, ou des choses comme ça. Quoi.
D'accord. Alors, on va parler de ton actualité un peu plus récente, hein, maintenant qu'on a fait un peu le tour de ton parcours. Qu'est-ce qui est arrivé dans ces derniers temps dont on peut parler chez Purple Brain? Qu'est-ce qui a été la nouveauté majeure de ces derniers temps?
Ah bah, je pense que ça doit être un truc qui commence par As et qui finit par Modé.
C'est pas mal, c'est pas
ou
mal,
alors,
on se rapproche.
Qui commence par Asmo qui finit par D, comme
c'est
on
bien,
veut.
C'est bien, c'est bien. Donc effectivement, voilà, Asmodé. Alors comment ça s'est passé, ce rapprochement Asmodé-Purple Rain? Qui a fait le premier pas, qui a tiré le premier? Est-ce que c'est Asmodé qui est venu te voir en disant « Ok, tu nous intéresses beaucoup, finalement ce que tu fais, on kiffe vraiment et on te veut avec nous. »
Tu vaux combien?
C'est toi qui,
Ça c'est pas tout à fait... Non. Voilà. Alors on va tomber dans les vieilles histoires de l'oncle Paul pour les plus jeunes d'entre nous.
Oh là, les références, on n'est que trois à la connaître.
Ah ouais, c'est ça. Ouais. J'aime bien faire
vas-y,
ça.
Vas-y, ça m'intéresse, vas-y.
C'est ça. Alors, en fait, quand j'ai lancé Purple Brain, parce que quand j'étais chef de projet chez Libellule, je travaillais avec Asmodée. Donc il y avait déjà des gens que je connaissais chez Asmodée. Je dirais même, il y avait des gens que je connaissais, qui sont arrivés chez Asmodée, que je connaissais bien avant.
D'accord. Aussi,
parce que ça fait longtemps que je joue.
Ah, c'est
etc.
un monde de dinosaures, quand même.
Ah oui, bah ouais, tu crois pas si bien dire. Et donc, j'avais une proposition. On avait discuté avec Asmodée, justement, pour Purple Brain soit chez Asmodée. Ça s'est fait avec Yellow.
D'accord.
Dans le coup, parce que c'était eux qui étaient venus me voir les premiers. Et puis voilà, la démarche était cool. Et puis. Et donc, avec Asmodée, on a toujours gardé le contact. Enfin, c'est pas hermétique. Hein, on n'est pas sur des parois inviolables, etc. Et donc, de fil en aiguille, finalement, la gamme Contes et Jeux, enfin les gammes que j'ai développées sont un peu sorties du lot.
Ouais.
On va dire. Les Trois Petits Cochons ont été sélectionnés à l'As d'Or la première année. Ensuite, Le Lièvre et la Tortue. Enfin, c'est des jeux qui ont eu pas mal de récompenses globalement au niveau international. Donc forcément, il y a des gens qui s'intéressent.
Clairement.
Et puis, l'an dernier, donc il n'y avait pas d'approche directe. Il n'y a jamais eu d'approche directe, mais bon...
on se tourne autour, on se voit, on se lance ses petits yeux.
J'en ai bien profité. Hein, et donc l'an dernier, on est en 2018, c'est ça.
Oui.
Donc l'an dernier... Marc Nounès m'a contacté, donc le patron de JD Édition, voilà. Ancien patron aussi d'Asmodée, pour me proposer un nouveau truc, quoi, parce que, alors faut savoir, techniquement parlant, Purple Brain c'est un studio Yellow.
Ah, c'était un studio, c'était pas une.
Alors, c'est un éditeur, mais on est lié avec Yellow par un contrat studio.
D'accord.
Okay, qui se termine le 30 avril prochain.
D'accord.
Donc, il fallait prendre une décision. Voilà. Et donc, moi, j'avais décidé déjà au mois d'août dernier de ne pas reconduire le contrat avec Yellow. Parce que c'était des chemins qui se séparaient, parce qu'on ne travaillait plus tout à fait de la même façon qu'au début, etc. Donc, tout avait changé.
Okay.
Et puis, moi, j'aime bien le changer aussi.
Ça renouvelait un peu les choses,
voilà,
ça te force à travailler
donc,
différemment.
Ça s'est su que ça se finissait le 30 avril. Hein, les choses se savent vite.
Mais toi quand tu avais pris la décision de dire « Ok, le 30 avril, j'arrêterai avec Yellow », tu savais déjà... Enfin, à ce moment-là,
non,
tu savais pas ce que tu allais faire.
J'avais discuté avec Johan de BlackRock. J'ai eu des discussions avec quelques personnes. Quoi, donc,
tu voulais forcément te rattacher à notre... à une autre entité.
Alors,
pas être solo complètement, quoi.
Solo complètement, c'est pas tout à fait possible. Déjà,
d'accord.
En termes de distribution. Enfin, chacun son métier. Après, moi,
je suis assez
comme ça. Après, j'étais pas du tout inquiet parce que je savais que j'allais trouver, que je trouverais quelqu'un avec qui me mettre. Hein.
D'accord.
Et puis, en fait, il y a aussi un facteur, c'est que ça faisait 5 ans que je travaillais tout seul. Donc au bout d'un moment, c'est-à-dire tout seul, c'est-à-dire on fait la com, on se déplace,
c'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu entends par
artistique ?
C'est la comptabilité, c'est toute l'administratif qui va aussi avec.
De faire un peu de compta, enfin la
tête. Tu gères ta boîte, quoi.
Non, mais c'est la gestion de boîte plus création, plus diffusion, plus communication.
Alors Yellow, en tant que, comme j'étais studio Yellow m'a aussi aidé dans cette, dans pas mal de parties, bien entendu. Mais bon, on travaillait tout seul à un moment, c'est un peu pesant. Enfin, c'est pas que c'est pesant, mais ça rince. Hein, pour parler de manière familière. Et donc, un des projets, c'était de se dire on va changer tout ça et on va recruter du monde pour développer Purple Brain. Donc, l'idée, c'était que je récupère avec Purple Brain tout, sortir du contrat studio Yellow pour récupérer mes jeux à l'export, etc., pour pouvoir grossir un peu, pour pouvoir recruter du monde, etc. Enfin, la vie d'une entreprise, quoi. Voilà. Mais en fait, Purple Brain, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai créé cette entreprise, mais pour moi, je ne suis pas attaché à cette entreprise de manière entreprise à papa. Pour moi, c'était une façon d'évoluer dans mon métier. Donc, quel qu'aurait été le type d'évolution, et donc c'est ce qui s'est passé avec Asmodée, pour moi, c'est une façon encore différente d'évoluer dans ce métier-là.
D'accord. Oui, puis tu disais que tu n'étais pas attaché à Purple Brain, finalement, comme tu es tout seul dedans, c'est juste un nom,
oui,
ça représente que
comme
toi.
Comme dit Marc, il a racheté mon cerveau. Grosso modo.
Oui, ok, oui, c'est ça.
C'est ça l'idée, en fait. Ah, ouais, c'est ça l'idée. Donc, et ça me vexe pas.
C'est plutôt bien. Enfin,
ça me vexe pas. Donc, effectivement, ça s'est fait assez rapidement. Donc,
c'est eux qui t'ont contacté.
Oui.
D'accord.
Donc, ça, c'était bien.
Ouais.
Non, parce que moi, j'avais aussi. Bah ouais, déjà, c'est cool, mais j'avais aussi monté Purple Brain pour gérer mon temps de travail. Donc ça c'était plutôt un gros avantage, quoi. Oui. Et
que travailler que 20 heures par jour, c'était bien, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça le problème aussi. Et donc une des conditions sine qua non pour quand on a commencé à discuter avec Asmodée, c'était que ça reste.
D'accord.
Donc je travaille toujours au même endroit. Je fais des déplacements aussi à Guillancourt chez Asmodée ou à Buc chez les Space Cowboys, au moins une fois par mois.
Ouais.
Et voilà. Tout simplement, quoi.
Ok, alors on va revenir justement sur qu'est-ce que c'est devenu. Christophe, t'avais
une question. Oui, justement, là, c'est plus le même contrat du tout que tu as. C'est que Asmodée a racheté Purple.
Oui.
Et donc, voilà, le studio Purple n'est plus une entité à part avec un distributeur. Là, c'est une entité appartenant maintenant à Asmodée.
Voilà, c'est devenu une entité qui est...
une sorte de label, on pourrait dire. Quoi,
alors, est-ce que c'est encore une entité juridique seule ou est-ce qu'elle est...
Non.
Voilà, l'entité juridique, on l'oublie et c'est absorbé par...
Exactement.
Parfait. D'accord.
Exactement.
Et donc toi, tu es devenu qui chez Asmodée finalement ?
Alors, je suis bicéphale. Attention.
Il a acheté un cerveau, il en a obtenu deux.
C'est incroyable. Asmodée a ce pouvoir. Donner un deuxième cerveau.
Il y avait une réduc. Donc je suis responsable de studio. Chef de studio pour Purple Brain.
D'accord.
Chez Asmodée Group.
Ça classique. Okay. Tu gardes finalement ce que tu faisais avant.
Voilà.
J'imagine avec moins de travail en tout cas
côté
administratif.
On va y aller plus cool.
Ouais. Hein,
parce que j'ai une certaine routine sur le. J'ai une méthode de travail.
Ouais.
Donc ça me permet de me concentrer sur le reste qui est. Je suis responsable de studio chez Space Cowboys.
D'accord.
Pour
qui
un label,
aussi un label de
chez
Asmodée.
Pour un autre label de jeu qui sortira l'année prochaine probablement.
D'accord, donc résumons, on a Asmodée qui est là, personne ne le voit.
Alors, on va pas rentrer dans l'arborescence de JD Edition.
Non, mais pour faire simple, on a Asmodée qui est tout en haut, juste en dessous, on a plusieurs studios, dont Space Cowboy. Mmh. Donc tu rentres aussi chez Space Cowboy.
C'est pas tellement tout en haut, c'est une sorte de cercle avec Asmodée.
Oui, voilà, j'essaie de résumer pour les auditeurs pour avoir l'idée ils ont un studio qui s'appelle Space Cowboy, qu'on connaît très bien, qui a gagné Unlock l'année dernière, qui a fait des très bons jeux comme Time Stories, ce genre de choses. Et à l'intérieur de ça, tu es donc chef de responsable pour un nouveau label des Space Cowboys, donc une espèce de sous-branche des Space Cowboys, pour développer une nouvelle gamme qui va sortir.
C'est ça.
Cette nouvelle gamme qui est, tu vas nous le dire,
qui est top secret et je peux tuer des gens pour ça.
C'est bizarre comme nom. C'est un nom. C'est pas commun, mais ok.
Vous n'oublierez pas de mettre les guillemets au bon endroit.
D'accord. Ok. Non, j'ai essayé. Fallait.
Alors ça sera sur une ligne éditoriale qui sera. On va dire dans la continuité de Purple Brain avant.
D'accord, on peut essayer de deviner en disant que Purple Brain était un peu un côté un peu enfant.
Famille.
Est-ce que Space Cowboy fait ça aujourd'hui ? Réponse non. Je crois pas.
Est-ce que Asmodée a un label vraiment jeunesse ?
Par élimination, non.
Non. Kétrus, tu avais une question.
Mais du coup, tu vas continuer à développer les collections que tu avais dans Purple Brain.
Oui, toujours. Bah, en fait, là, on a le petit poussé de Bruno Feduti à Nièvre 2 qui sortira dans la gamme Contes et Jeux en octobre.
Ça vend du rêve, encore une fois, mais ok.
Voilà, carrément. Et illustré par Frédéric Pilot, ça vend du rêve.
La couve est très très chouette. Hein. Elle, on peut la trouver sur le web.
Ouais, sur la page Facebook Purple Brain.
D'accord.
Et voilà, donc non, ça va continuer. Là, on est en train de travailler sur Michel Strogoff, un jeu de Devir, qui sortira certainement l'année prochaine, peut-être à Cannes, okay. Chez Purple Brain.
Toujours.
Et donc voilà. Non, il y a. Après, moi, ça me va cette façon de ralentir un peu la cadence chez Purple Brain parce que tout le monde se plaint qu'il y a trop de jeux.
Ouais.
Ah, et donc, personne fait d'effort pour que. Il y en a, je comprends même pas comment ils peuvent sortir autant de jeux et s'en occuper aussi bien. C'est tout juste impossible. Quoi.
Ça, c'est quelque chose que tu vois dans l'édition. Des éditeurs qui se disent on va faire moins de jeux parce qu'il y en a trop et on va plus les soigner.
Je pense qu'il y en a, ils s'en foutent.
Ils s'en foutent, ouais.
C'est-à-dire, il y en a, surtout des gens qui distribuent, je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas ça le propos, mais ils sortent énormément de jeux, c'est des brouettes, et ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Quoi. Je pense qu'il y a un petit peu un entre-soi à se dire, on est dans un milieu où on joue, mm-hmm. Ça veut dire que tout le monde joue autour. Mais c'est pas du tout le cas. Il y a encore des jeux, plein de gens autour, qui jouent encore au Monopoly, au Millborn et au Uno, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a une vision qui est un peu tronquée de se dire on va sortir plein de jeux parce que c'est le jeu de société est en train d'exploser, c'est formidable. Mais je pense qu'il y a beaucoup trop de jeux qui sortent pour ce qu'il y a en face, en fait. Quoi.
Ouais.
Donc,
il doit avoir une notion chez ces personnes-là de dire ok, si j'augmente ma gamme a fortiori, j'aurai plus de ventes. C'est un peu ouais, une chose, ça va être un peu l'idée, mais c'est pas complètement vrai non plus.
Bah, après, c'est un peu ça peut marcher, ce genre de truc.
Oui.
Sur un coup de bol. Enfin, dans tout ça, on peut avoir un jeu qui se détache et puis ça te conforte dans tes choix.
Ça limite un peu ton risque. Ouais. Mais c'est un peu délicat, bon, effectivement. Mais voilà, inonder le marché, c'est jamais très, très, très bon. Non. Christophe.
Ouais, c'est le propos qu'on a tenu dans la précédente émission. L'importance, effectivement, il faut faire un bon jeu, mais après, il faut aussi lui donner la chance de vivre. Parce que, avec le renouvellement constant de la production, ça signifie qu'un jeu remplace un autre, quelle que soit la qualité du jeu précédent.
Oui, t'as une cannibalisation, en fait, entre les jeux qui peut être assez folle.
Et du coup, là, en tant qu'éditeur, comment est-ce que. Et un chef de studio maintenant, c'est quoi l'enjeu? Enfin, comment est-ce qu'on arrive à faire qu'un jeu ait le temps de trouver son public?
Oula!
T'as vu le niveau?
Je pense qu'il y a des impondérables, surtout. Enfin, il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas, parce que si on maîtrisait tout, on se disait, bon, là, j'ai foiré un truc sur un jeu, on ne le reproduit pas la fois d'après, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher non plus. Quoi. Moi, c'est pareil, éditorialement, il y a des jeux auxquels je croyais. Quoi. Le joueur de flûte, par exemple, c'est une déception, parce que moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et que finalement, les ventes n'étaient pas plus que ça. Quoi. Enfin, donc, il n'y a pas de règles.
Par exemple, sur Joueur de flûte, qu'est-ce qui a fait que les ventes n'étaient pas aussi bonnes, d'après toi, aujourd'hui, en fait?
Je ne sais pas.
D'accord.
On peut toujours avoir des idées, mais on n'est pas sûr de.
Il est venu trop tôt par rapport au dernier, c'était le mauvais, il y avait un concurrent en face.
On ne sait pas. Okay. Et en plus, il y a des jeux qui viennent contredire toutes les règles de l'édition. On se dit, ouais, il faut faire des jeux de plus en plus beaux, avec une ergonomie qui est de plus en plus maîtrisée, etc. C'est des règles qu'on se donne en tant qu'éditeur. Et là, il y a Codenames qui débarque, qui n'est pas très beau. En termes d'air...
La couve n'est pas non plus. Ouais,
c'est pas très beau. En même temps, c'est un jeu de cartes avec des noms dessus.
Et je dirais que même qu'en termes d'ergonomie, c'est pas terrible parce qu'on a des espèces de.
Le recto verso, c'est impossible à lire d'un côté.
T'as un fond blanc sur un et l'autre, tu. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est un jeu qui brise un peu les règles de la bienséance éditoriale. Et le jeu est tellement fort et tellement puissant. Qui se contrefout de tout ça, quoi. Donc c'est pour ça les règles de l'édition, à un moment, il y a toujours des jeux qui viennent les exploser, qu'on n'est jamais sûr de pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Moi, j'ai tendance à penser quand même que la qualité mécanique d'un jeu, peu importe comment il est habillé, enfin, ça a forcément une influence. Ça peut aider. Mais ce n'est pas ce qui va déterminer le truc in fine, je pense.
Oui, en plus, ça dépend des personnes et de la tendance.
En fait, il y a un côté un peu rassurant là-dedans, de se dire, on est toujours sur la... c'est toujours la qualité mécanique et profonde du jeu qui fait quand même la différence, globalement. Après, il y a toujours des exceptions. Hein. Mais pour moi, Codenames, c'est un très bon exemple.
C'est vrai. En fait, c'est tellement, pour moi, c'était tellement un jeu de cartes classique que je regardais même pas l'ergonomie. Enfin, effectivement, on s'est fait la réflexion hier avec
Elbus,
parce qu'on a tout, on a joué en duo et on se disait d'un côté, on n'arrive pas à lire les cartes. C'est juste horrible, quoi.
Mais
on joue, on est dedans.
Et ben ça, en fait, je trouve que l'émotion que procure un jeu, il y a plus on est plus il y a de, il y a beaucoup de spécialistes du monde du jeu.
Chacun est spécialiste dans un domaine.
C'est qu'à un moment, on oublie les gens. Quand on, moi, enfin, c'est pas un mot de jeu erreur, c'est un peu exagéré, mais tester un jeu, c'est de se dire, le test, ça veut dire qu'à un moment, on oublie le plaisir. On est là pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui coince, qui gratte ou qui ne va pas. Et moi, quand je teste un jeu, un prototype, parce que là, on peut appeler ça un test, faut pas oublier l'émotion que va procurer le jeu. Et on reparle de Codenames, mais l'émotion est tellement, enfin, l'émotion. Je ne dis pas qu'on va pleurer quand on va jouer.
Non, bien sûr. Non, mais la réflexion est tellement forte.
Le truc, c'est qu'on oublie en fait les défauts qui sont sur ce jeu, que ce soit matériel, visuel. Bon, on ne se sent pas dans la peau d'un espion non plus.
Non, clairement pas, non.
Et encore, ils ont retravaillé pour la version française.
Oui, bah, je pense que ça ne servait à rien. En fait, hein, parce que...
Ils ont payé des gens pour rien. Allez.
On ne le saura jamais, mais je pense que s'ils avaient gardé la couverture original.
Oui, ça n'a rien changé en fait.
Ça n'a rien changé au succès du jeu.
Enfin, moi, tu me demanderais comment la couverture elle est aujourd'hui, je te dirais qu'elle est rouge d'un côté et verte
exactement.
De l'autre. Mais c'est enfin
bleu pour la version image.
Ah oui, en plus, toi, je ne sais même pas. Mais toi, finalement, ce qu'elle représente, on s'en fiche. Ce qu'il y a sur les cartes, on s'en fiche aussi. On voit qu'il y a le visage, je ne sais même pas qui c'est. Bref. Christophe, vous avez une question.
Oui, donc là, par rapport à ton avenir, à ton projet, etc., donc on imagine bien que tu vas travailler, tu vas développer les gammes. Enfants et familles. Quel est, toi, actuellement le constat sur le secteur au niveau famille, enfants quand on dit, tiens, je vais lancer des nouveaux jeux enfants, on se base sur quoi? Sur des... Il y a des tendances?
Tu sais qu'en frontal, déjà, il y a Abba et Djeko.
C'est marrant, j'allais te poser la question.
Donc, déjà, tu sais ça. Alors, je ne parle que de mon point de vue, hein, bien entendu. Hein, je pense que si tu fais un truc trop lisse, sans âme, qu'on a déjà eu l'impression de voir plein de fois et que finalement, ça ne change pas grand-chose, autant pas le faire, quoi.
Mais c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, ça ne l'est pas, mais j'imagine que... Alors, je ne suis plus un enfant depuis longtemps, mais j'imagine qu'un enfant, en fait, qu'il ait la même mécanique sur un jeu ou sur un autre, ça ne va pas le gêner de jouer à la même mécanique si l'habillage est différent, non? Ou pas du tout?
Après,
est-ce qu'on pense à ce genre de choses?
Mais moi, alors, si on parle des enfants, mais même pour les adultes, un truc qui est aussi très important, c'est la mise en scène. C'est-à-dire, t'as quoi devant toi en termes d'objets? C'est-à-dire, si t'as, je sais pas, une poire sur une carte ou une poire en trois dimensions en bois, c'est tout de suite pas la même immersion, tu vois. Je pense qu'il y a un aspect immersif aussi qui est aussi valable pour plein d'autres jeux.
Pour un adulte, il y a d'autres biais qui vont rentrer en compte aussi pour le prix du jeu, à savoir si ça change vraiment de quelque chose. Je préfère payer un jeu 20 balles et me dire ok, c'est que des cartes, mais la mécanique est bonne.
Mais ça, c'est pas les enfants qui les achètent, les jeux.
Non, mais c'est pour ça que tu parles des adultes sur le biais adulte. Moi, je parle vraiment de l'enfant aussi. Qui joue à un Cluedo où c'est dans un monde de dinosaures où il doit retrouver un œuf, ou qui joue à un Cluedo dans un peu Star Wars, machin et tout, la mécanique est exactement la même.
Ah oui.
Et finalement, il pourra jouer aux deux en s'amusant équivalent, tu vois.
Ouais, mais je pense que ce qu'il va préférer, c'est tel ou tel univers, en définitive.
Oui, voilà. C'est que la mécanique pourrait être la même sur 10 jeux, finalement,
Il y a tellement de mémories. Des mémories, il y en a plein. Et après, tu vas choisir forcément celui dans lequel l'univers ou les enfin, même l'univers graphique, on va dire, hein, c'est ça qui va attirer l'œil aussi, surtout sur ce genre de public qui peut faire la différence, bien entendu.
Bien sûr, bien sûr.
C'est pour ça de faire des choses qu'on a déjà vues ailleurs, même visuellement. Je trouve que, enfin, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire, quoi.
Oui,
j'ai envie qu'on prenne un peu de risque graphique. Et quand tu prends des risques,
il
y a le risque de se vautrer aussi, hein, forcément. Mais moi, dans mon métier, dans l'édition, j'ai pas envie de faire des trucs. Alors, ça m'est peut-être arrivé, mais des trucs qu'on a déjà tellement vu ailleurs que j'aurais l'impression de faire juste un produit et puis de chercher à toucher tel public et puis terminer sans qu'il y ait vraiment de truc derrière.
Avoir un objectif de vente, c'est ça.
Moi, ça m'intéresse pas tellement. Peut-être que j'y viendrai un jour, je sais pas.
Ça, c'est pour les marketeuses.
Pour les marketeuses, même pas, mais il faut donner une ligne directrice dès le départ.
Bien sûr.
Après, l'idée, c'est que tout le monde travaille ensemble, que ce soit le marketing, plein de trucs, mais que cette ligne soit tenu, et là, chez Space Cowboy, c'est l'idée de faire un truc qui soit un peu, enfin, pas sur ce qui se fait, c'est peut-être un peu présomptueux, mais qui ressemble pas à ce qui se fait déjà chez Abad, Jeco, qui travaillent très bien aussi, qui ont imposé leur marque, leur style, etc. Mais si c'est pour faire comme eux, quand on va arriver devant les gens qui vendent, enfin, les boutiques, etc., pourquoi une boutique va choisir plus un jeu de chez Space Cowboys, Kids, ou je sais pas quoi, on verra plus tard.
Il y a un truc là, attends, il y a un truc, continue de parler.
Voilà, tu vois. Mais qu'est-ce qui fera la différence? Pourquoi ils choisiraient ces nouveaux jeux plutôt que ceux de chez Abba qui sont sûrs de vendre?
Oui, d'accord, il faut savoir se décorréler ce qui existe déjà.
Moi, ça m'intéresse pas de travailler comme ça, en tout cas.
D'accord,
voilà, okay. C'est tout.
Christophe.
Alors justement, est-ce que c'est pas vraiment compliqué quand tu as des deux énormes mastodontes comme ça que les boutiques connaissent, etc., mm-hmm. de se démarquer, d'arriver à être pris? Parce que toi, on parlait des As d'Or, par exemple. Mm-hmm. C'est vrai qu'on est vraiment dans des éditeurs, la production jeunesse, avec un style d'ailleurs très jeunesse. D'ailleurs, mm-hmm. Graphiquement, on est on a du mal un peu à sortir de l'illustration livre jeunesse, qui est pas du tout le même style que toi, par exemple, tu fais en termes de d'illustration jeu enfant. Mmh. Quelque part, c'est presque, toi, c'est enfant famille.
Oui.
C'est pas vraiment jeunesse.
Oui. C'est compliqué, toutes ces cases là.
Non, mais sur Purple, tu veux dire,
un jeu Purple, par exemple, t'as toujours développé tes jeux Purple avec deux niveaux de jeu. Il
oui.
Y a toujours un jeu effectivement pour les enfants, et on peut jouer en famille et s'amuser même entre adultes. Mmh. Le jeu jeunesse, généralement, il n'y a quasiment qu'un niveau. Même si on dit qu'on peut s'amuser, un bon jeu jeunesse, les adultes vont s'amuser avec. Nous, on s'est éclaté avec un ou deux jeux de la section cette année quand même.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'on sent bien qu'on n'est pas le public cible.
Oui.
Un compte et jeu... C'est un peu différent.
Mmh. Oui, il y a une deuxième lecture adulte. Et finalement, ouais. c'est un peu ça qui... Je pense que la question de Christophe, c'est est-ce que c'est pas délicat finalement pour... parce que le but aussi, c'est aussi de pouvoir... d'être...
Est-ce que c'est vraiment un atout, ou est-ce que c'est pas justement aussi un truc où les boutiques spécialisées, parce que les boutiques spécialisées jeux enfants sont vraiment pointues. Mmh. Est-ce que c'est pas justement difficile de se démarquer, enfin d'être même sélectionné par eux?
Oui.
D'être connu comme du jeu
pour
enfant.
Alors pour le coup, en ce qui concerne la gamme Contes et Jeux, justement, on parlait de différents niveaux de jeu. Plus j'avance dans mon boulot avec l'expérience, plus je me dis que c'était, en fait, c'est presque une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce, et ça je l'ai vu notamment sur des jeux comme La Cigale et la Fourmi, et puis même Le Petit Chaperon Rouge, avec vraiment niveaux de jeu
adultes
différents. Enfants, ouais. Hein. Que finalement, les gens ne jouent qu'au premier, la plupart du temps.
Pourquoi? Parce qu'ils jouent avec leurs enfants?
Pas parce que c'est chiant de lire des règles, déjà.
Il y a pire. Hein.
Ouais, non, mais ça peut être un vrai point.
Bon point. C'est un bon
et
point.
Et que sur les festivals, en général, c'est rare qu'on montre le deuxième mode de jeu, qui est surtout sur une gamme qui est quand même assez ouverte à plein de gens.
Comment tu vends que la première, en fait?
Alors, par exemple, sur Jack et la Rico Magique, il y a deux niveaux de jeu. Mais le deuxième niveau de jeu est déjà intégré dans le matériel du niveau 1 avec les petits pouvoirs sur les cartes. Donc, ouais. Les gens n'ont pas l'impression qu'ils peuvent y passer beaucoup plus facilement, en fait.
Ouais,
plutôt que d'avoir deux modes de jeu vraiment différents, ce qui était le cas avec la Cigale et la Fourmi, avec des éléments supplémentaires, etc. Quoi.
Ouais, donc, en fait, c'est vrai que, comme le disait Christophe, t'as le mode enfant où les enfants jouent vraiment ensemble. Et donc, du coup, t'as ce terme. Alors, j'avais parlé des règles simplifiées, c'est pas ça, mais t'as des règles qui leur sont adaptées. Et les adultes peuvent se permettre de jouer avec eux sur finalement ces règles adaptées, mais quand t'es adulte, tu vas pas jouer spécifiquement. Enfin, en fait, je dis ça, mais on le fait nous régulièrement. On va jouer avec peut-être les règles améliorées, mais quitte à faire ça, peut-être on va passer sur un jeu qui va être autre chose.
C'est
en fait.
Ça. Ouais,
et
ouais.
Donc, c'est vraiment.
Ah bah, c'est. Alors là, pour
c'est
le
catégorie
coup,
un peu bâtarde.
Ah bah oui, de toute façon, les jeux Purple Brain, notamment la gamme Contre des jeux, c'est des.
Ouais,
clairement des
bien.
Jeux qui ont le cul entre deux chaises. Hein.
Ouais, je comprends bien ce que tu veux dire.
Et puis moi, c'est ce que j'ai envie de faire.
Oui, ça marque.
Et c'est forcément, il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est que ça a permis à Purple Brain de s'identifier, d'avoir une ligne éditoriale et de sortir du lot, clairement. L'autre côté, c'est qu'effectivement, comment je vends un jeu de la gamme Contes et Jeux? Enfin, Il y en a qui sont plus faciles à vendre que d'autres.
Hein. T'as plus de boulot à faire vis-à-vis des distributeurs. Ouais,
exactement. Quoi. Mais ça, après, tu prends ton bâton de pèlerin et puis tu leur expliques que déjà, les comptes et les fables, c'est pas que pour les enfants, parce que mine de rien.
C'est pas fait pour les enfants.
Ouais.
Attention.
Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Ouais.
Qu'est-ce russe ?
Mais parce que, est-ce qu'il n'y a pas une image du jeu enfant qui est un peu tronquée ? Ce que je veux dire, c'est qu'on a. Surtout, je parle des grandes surfaces, mais pas que. Mais quand on voit le jeu enfant, on voit des jeux assez simples. Grossier, c'est pas forcément le terme, mais et pour arriver à quelque chose, un jeu de société un peu plus moderne, un peu plus avancé, et donc tu parlais d'avoir le cul entre deux chaises, c'est un peu ça. Moi, par exemple, avec mes enfants, je me rends compte, même si c'est des enfants de joueurs, etc., je me rends compte toujours que les limites d'âge sont fausses, en fait. C'est marqué 8, 10, et en fait, moi, mon gamin de 6, il y jouait déjà. Est-ce qu'il n'y a pas une éducation, mais est-ce qu'il n'y a pas un progrès à faire à ce niveau-là sur le jeu enfant, quoi. Sur de dire que on a des enfants de 5-6 ans, ils sont très bien capables de jouer à des jeux qu'on ait règles avancées.
Ils sont pas tous comme ça.
Ouais, c'est ça
la grosse difficulté, c'est qu'effectivement, les enfants de joueurs, on se rend bien compte.
Exactement.
Et qu'ils sont pas comme les autres, entre guillemets, sans que ça soit péjoratif. Il y a une culture ludique et des choses qui s'intègrent, en fait, au fur et à mesure. La gamme Contes et Jeux, c'est sûr qu'elle serait. On pourrait presque dire qu'elle est aussi faite pour les enfants joueurs.
Ouais, d'accord. Ouais, mais
voilà, dans l'idée. Tu vois.
Ouais,
c'est sûr que c'est pas facile comme créneau.
c'est amusant. Ouais. Pour l'anecdote, en fait, quand on avait fait un festival en Belgique, ça remonte très loin maintenant, mais on avait testé un Istari là-bas. Et on avait posé des questions à l'auteur, justement, parce qu'on avait vu une famille qui jouait à son jeu. Et c'était Istari, ça reste des jeux quand même. Faut avoir un peu de background de joueur pour ça. Et les enfants devaient avoir 9-10 ans et effectivement jouer très bien avec leurs parents. Et on se posait la question, est-ce que c'est possible ? Et oui, mais là, c'est une famille de joueurs. Tous les enfants ne pourront pas, clairement. Et effectivement, ça rejoint le propos. Et effectivement, si on a une famille de joueurs, on peut facilement intégrer des mécaniques très tôt.
Il faut faire attention parce que oui, il y a un public joueur en augmentation, mais pas aussi rapidement qu'on le pense.
Oui, malheureusement.
Donc il y a tellement de paramètres qui s'intègrent là-dedans. Tu as des enfants joueurs. Alors, c'est-à-dire. Pour finir là-dessus, mettre une limite d'âge ou un 6+, un 7+, un 8+,
c'est délicat, hein.
C'est compliqué,
c'est chaud.
Et
surtout, tu te fermes une porte de vente si tu te gourres d'une année sur l'autre.
Ah oui.
Enfin, si tu mets du 8+, alors que finalement tu aurais pu mettre du 6+ ou 7+, t'as des parents qui vont vraiment fermer la porte facilement pour avoir testé avec une amie il n'y a pas longtemps pour son enfant. Moi, quand je regardais les jeux, je savais vraiment pas comment m'y prendre. Est-ce que ça c'est bon, est-ce que c'est pas bon?
Oui, tout à fait.
Ok, écoute, merci à toi, Benoît Forger, pour ce temps avec nous. J'ai très hâte, je parle pour moi, de voir cette gamme top secrète en préparation. Je pourrais tuer des gens pour ça,
entre guillemets.
Chez Space Cowboy, parce que je pense que ça va nous préparer du très très lourd pour le futur. Merci à toi, on te souhaite une très très bonne fin de journée et surtout beaucoup de plaisir à travailler chez Asmodée pour
ton... Oui, c'est
bien
parti là, voilà. Je me sens à la maison.
Et on a hâte de voir tout ça. Merci à toi, au revoir.
Au revoir.
Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger ? Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné ? Vous confondez toujours Batman et Robin ?
Ah mais ouais, mais là c'est chaud là quand même, c'est chaud !
Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa.
Connaissez-vous ludographie comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou,
c'est moi,
dissèque un élément d'un jeu vidéo,
un signe vidéoludique,
et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid,
le score dans le premier Mega Man,
le choix dans The Stanley Parable,
la difficulté à rebours dans Braid.
Autant de raisons d'écouter Ludographie comparée sur Radio Kawa.